En ce vendredi ensoleillé d'automne, des gens boivent une bière sur la terrasse de la microbrasserie Ciboire au centre-ville de Sherbrooke. Plus loin, des gens entrent dans la maison du cinéma pour aller voir un film. Sur la rue Wellington, un spectacle est annoncé. Clients sont attablés au restaurant Auguste pour le... Écoute, c'est le texte d'Émilie Côté dans la presse. Et puis là, on est à 150 kilomètres de Montréal. Ce que je vous décris là, ça se passe à Sherbrooke. Fait qu'ils font quelque chose à Sherbrooke et en Estrie qu'on n'a pas fait suffisamment ailleurs au Québec. Le docteur Alain Poirier est directeur de la santé publique de l'Estrie. Bonjour, Alain.
Bonjour, moi, il fait rire.
Ben là, Alain, il y a quelque chose que vous faites là. C'est quoi que vous faites? C'est quoi la clé de votre secret?
Ben, je vais commencer par ce qu'on fait pas. On n'est pas une exception, on n'est pas vraiment meilleur que les autres, parce que si je le savais, là, je me dépêcherais de le dire à tout le monde. Il y a mon liste, mon cahier est plein d'erreurs, il déborde d'erreurs, puis il y a sûrement une part de chance. Oui, on fait des choses de bien, c'est ce que dans l'article que je répondais à Mme Côté, mais il y a une part de chance. La semaine prochaine, vous allez peut-être me rappeler pour dire « Hey, Alain, t'as perdu le contrôle ». Ce que je veux quand même faire ressortir, puis quand on m'a posé la question, j'ai tout de suite passé le puck à des collègues, c'est qu'il y a une structure de coordination basée sur les urgences, qui s'appelle la sécurité civile, que je connais bien, parce que j'ai géré au niveau ministériel H1N1 avec cet outil, dans le temps, en 2009, quand le virus de la grippe est arrivé.
Oui.
Et ça met tout le monde ensemble dans une structure de coordination d'urgence. Puis la santé publique, c'est une partie... Quand on parle d'une bébite, d'une maladie infectieuse, c'est une partie importante, mais pour n'importe quelle urgence, il faut être vraiment coordonné à tous les secteurs, pas juste la santé, avec les autres. Fait que c'est la structure qui est très vivante en Estrie.
Oui, mais je t'arrête, Alain. Bon, on se tutoie là parce qu'on a comme un peu de travail ensemble, si on peut dire. Là, je m'en excuse, je devrais peut-être dire vous. Là, mais es-tu en train de dire que cette structure-là n'existe pas dans les autres régions du Québec? C'est vraiment unique à la région de l'Estrie? Et si oui, pourquoi? Non?
Non, ça existe partout, mais c'est peut-être pas aussi vivant et fort. Ici, dans l'article, on note notamment, puis je l'ai vite découvert quand je suis arrivé, il y avait des gens qui étaient responsables du volet de sécurité civile dans l'équipe. J'étais un peu étonné parce que c'est pas une équipe extraordinaire, mais c'est ces gens-là qui sont très allumés et qui ont continué de travailler tout le temps. Pas juste quand il y a eu lac Mégantic, mais depuis, ils se réunissaient régulièrement. C'était très actif. Et aussitôt que c'est arrivé, là, en début janvier, moi, je me rappelle, j'avais noté ça au comité de direction, il y a quelque chose qui se passe en Chine. Ben, tout de suite, la structure de sécurité civile, qui est très bien placée, bien coordonnée, a dit, on active notre cellule. Donc, oui, ça existe ailleurs. Est-ce que c'est... Puis là, mais vraiment, c'est, je parle à travers mon chapeau.
J'ai entendu lac Mégantic. Est-ce que c'est ça le point de départ de cette symbiose, de cette espèce de fluidité d'instructure? Ça remonte au drame de lac Mégantic? Ça a été comme une espèce de répétition générale pour la COVID?
Ben, une répétition générale, c'est-à-dire que oui, la structure existait déjà avant, mais elle était très active. Puis à lac Mégantic, les gens ont beaucoup travaillé ensemble pour aider cette catastrophe aiguë. Oui. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la COVID comme style de crise.
Non.
Mais donc, les gens, ils ont travaillé, mais ils ont continué d'avoir ce groupe ensemble. Moi, ça fait pas longtemps que je suis là. Je suis arrivé en septembre dernier, donc pas 20, mais 2019. Et les gens étaient très, très actifs. Ils se réunissaient régulièrement, y compris avec un comité sur les maladies respiratoires infectieuses, parce que le SRAS a surpris Toronto en 2003, et parce qu'on s'attendait pas à ça. Alors que sur la côte ouest, le même jour, quelqu'un est arrivé avec le virus, puis ils ont tout de suite eu le réflexe. Il n'y a eu aucun autre cas que la personne qui est arrivée à Toronto. À Vancouver, alors qu'à Toronto, ça allait exploser. Donc, d'avoir des réflexes puis une bonne coordination préparée à toute urgence, moi, c'est ce que je découvre ici. Puis quand mes collègues, je pose la question, ça se fait pas comme ça ailleurs, ça a pas l'air d'être aussi actif et vivant. Donc, oui, ça existe partout, c'était ça votre question,
mais
je pense que les gens ont mis vite la switch off quand peut-être la première crise a diminué ou ils n'étaient pas aussi prêts. Moi, par exemple, dès janvier, je ne l'ai même pas demandé, pourtant j'avais fait de ça en Afrique dans le dossier de l'Ebola, les gens ont fait des simulations à l'urgence. À titre d'exemple, ce comité-là, ils ont fait des simulations, on envoie des faux patients, il faut que les gens aient le réflexe de demander « Arrivez-vous d'un voyage en Chine? » Et puis quand j'ai eu les résultats, j'ai dit « Mon Dieu, vous avez déjà fait ça. » Mais ça, c'était le résultat de cette pratique du comité maladie infectieuse et autres. Juste un petit exemple,
mais
qui montre comment les gens étaient déjà aguerris à cette idée de lutter contre une maladie bizarre qui nous arrive dans une salle d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour dire que c'était très vivant, cette culture-là.
Donc, c'est très bien, parce que tu nous montres, Alain, qu'on n'est pas condamné à vivre avec l'inefficacité puis la lourdeur bureaucratique. Tu peux avoir des structures qui, à un moment donné, se mettent sur un pied de guerre, puis ils se mettent en deuxième, puis en troisième, puis en quatrième vitesse, puis ils livrent des résultats.
Oui, puis les gens travaillent très fort. Là. Quand je disais l'article ce matin, mon premier réflexe, bon, j'étais fier, puis fier aussi que la journaliste soit allée voir les gens que j'avais nommés, que je trouve intéressants. Mais quand je pense aux 17 régions, ils ont toute la vente à terre, puis ils travaillent aussi fort. Mais c'est juste qu'il y a des ingrédients, je ne sais pas si c'est, j'allais dire, organisé de la même façon, mais je pensais à mes collègues, puis pas juste mes collègues de santé publique, tout le monde travaille très fort. Et puis ce virus-là, il a des parts invisibles. J'ai commencé en me disant que mon cahier déborde d'erreurs de ce que j'ai imaginé à la première, puis à la deuxième vague, etc. Puis j'aurais fait des choses différemment, mais il y a tellement d'arbitraire. Parce que la science, la santé publique, c'est pas une science exacte, c'est une science appliquée où il faut toujours du qualitatif, puis trouver un équilibre entre on va-tu nuire, plus est-ce que les mesures vont être efficaces? Je prépare une présentation, puis j'essaie de mettre les connaissances sous la forme d'un iceberg, les connaissances entourant le virus. Ben, en haut, là, ce qui dépasse, ce qu'on voit à surface, là, il y a 4, 5, 6 certitudes, mais il doit en avoir 25, 30 dans la partie immergée du iceberg, pour dire qu'on ne sait pas tout, puis c'est pour ça qu'on fait des erreurs.
Juste avant de se laisser, Alain Poirier, vous parliez tout à l'heure, il y a peut-être une part de chance. Donnez-moi un exemple, peut-être, de chance que vous avez eue.
Ah, mon Dieu, je pourrais pas dire tellement que nous, on a eu, mais les gens vont bien comprendre. Il y a des régions qui ont eu zéro cas. Ben, prenons le Lac-Mégantic. Je vais rester chez nous. Lac-Mégantic, on n'avait pas de cas du tout. Je pense dans toute la première vague, il y a eu dans cette région-là 8 ou 9 cas. J'ai oublié le chiffre exactement. Mais tous les jours, moi, j'avais un plan de la région. Et puis, sur chaque ville, je mettais les chiffres. Puis, je me dis, écoute, il se passe rien du côté de Lac-Mégantic. Il n'y a jamais rien. Bon, tant mieux pour eux. Mais là, on vient d'avoir, on sort à peine, mais on a bien maîtrisé quand même, je pense. Les éclosions. Et donc, actuellement, le point chaud, c'est Lac-Mégantic. Alors, quand je dis une part de chance et de malchance, même chose le Bas-Saint-Laurent, je taquinais mon directeur, mon collègue directeur dans le Bas-Saint-Laurent, il n'y avait jamais de cas dans la première vague. Ben, ils ont été parmi les premiers là, dans la deuxième avant une grosse vague. Fait que ce virus-là entre, puis il y a des gens qui se sentent peut-être un peu plus insouciants, ils n'en ont pas eu du tout dans la première vague, mais quand ça arrive, on n'est pas protégé, personne contre le virus. Mais 98% des gens ne l'ont jamais fait, ce virus-là. C'est quand ça rentre en quelque part, si on n'est pas rapide sa gâchette, ben on se fait avoir.
Puis rappelons-nous, dans la première vague, à un moment donné, l'Estrie, c'est un point chaud de la pandémie. Peut-être, inversement, Alain Poirier, vous avez appris justement de la première vague. Vous avez été frappé fort lors de la première vague. Peut-être que vous avez gardé certains réflexes qui vous servent bien dans la deuxième. Ça se peut, ça?
Mais ça se peut, mais dans les deux cas, on était les premiers, malheureusement, aussi dans la deuxième vague. Et à avoir des cas très rapidement, on a eu ça en mars dernier, puis on en a eu là fin août, début juillet.
Mais vous l'avez contenu. Mais vous l'avez contenu.
Ben, oui, puis évidemment, il faut retenir que dans les mesures jaune, orange, rouge, évidemment, plus vite on travaille avec la population, on débarque dans le quartier, on fait des visites, parfois même de porte à porte dans certains cas, mais plus vite on fait ça, plus vite on empêche, on veut, les mesures contraignantes d'arriver. Voilà. Puis l'article de la presse aujourd'hui dit bien, là, ça commence par « ici, on continue de vivre ». Mais les gens, s'ils veulent continuer ça, moi, je menace toujours le rouge. C'est là qu'on veut pas aller. Je parle du rouge, on veut pas aller là, mais il faut, c'est pas moi dans mon bureau qui décide comment 500 000 personnes se comportent.
Donc, on comprend.
Ultimement, ça dépend. Communication et beaucoup de travail avec les partenaires, mais tout le monde le fait, puis ça, c'est important parce que le titre, l'exception estrienne, m'a fait un petit peu mal de ce côté-là en me disant, bon, ben, en plus, j'ai été directeur national, c'est que c'est le genre d'affaire que tu ne veux pas dire aux autres collègues, vous autres, vous ne travaillez pas bien. Nous sommes une exception. On n'est pas une exception, mais il y a des outils qui existent
D'accord.
pour mieux coordonner ces grosses machines que sont les CIUSSS.
Docteur Alain Poirier, directeur de la santé publique de l'Estrie. L'exception. Salut.
Non.
Je sais, je te taquine. Salut, à la prochaine. Bye. OK, après la pause, c'est quand même une histoire hors du commun. Je veux dire, t'as des journalistes du Journal de Montréal qui nous révèlent qu'un des plus importants chefs de la mafia montréalaise était un informateur pour la police.